Bonjour à chacun. Ce matin, j'avais envie de parler d'un thème, j'ai un peu réfléchi, quelque chose qui soit un peu pertinent aujourd'hui. Et j'ai choisi de parler de quelque chose qui est en lien avec la période du carême qu'on vit, hein, on attend Pâques. Et j'ai choisi le texte La Transfiguration, parce qu'il se passe justement avant que Jésus se mette en route pour Jérusalem, où il va vivre tous les épisodes de la croix. J'ai regardé un peu les trois textes, hein, ils se trouvent dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, ce texte, et j'ai trouvé super intéressant de voir que c'était exactement dans le même contexte et dans la même chronologie. Et ça, c'est rare, hein, que les trois synoptiques soient d'accord. Et je me suis dit que ce n'était pas un hasard, c'est que vraiment ce contexte, il éclaire le récit de la transfiguration et il explique aussi le texte. Donc le contexte, c'est que Jésus a demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Et peut-être que vous vous rappelez de la réponse de Pierre qui, après 3 ans avec Jésus, arrive à cette confession de foi de dire « Mais tu es le Messie. » Non pas Jean-Baptiste, un prophète ou Élie, mais tu es le Messie. Et Jésus lui dit qu'il a raison, donc il confirme « Oui, c'est vrai. » Donc il faut un peu s'imaginer dans quel état d'esprit il doit être ce Pierre et puis les disciples se dire oh, « Ils sont là avec... » vraiment les spectateurs de ce que va faire le Messie, le libérateur. Il doit y avoir une fébrilité, une joie qui est là. Et Jésus casse ça direct. Non, il annonce qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va être rejeté par les responsables religieux, qu'il va souffrir, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et la réaction de Pierre, elle est directe. Peut-être qu'il dit tout haut ce que les autres pensent, hein, mais il dit, mais non, ça c'est pas possible, non. Jésus, ça va pas t'arriver, c'est pas comme ça. Hein. Et Jésus le reprend sévèrement. Si, ça va se passer comme ça, même si Pierre ne le veut pas, même si Pierre ne le comprend pas par là. Le chemin du Messie passe par le rejet, par la souffrance, par la croix et par la résurrection. Et le chemin des disciples aussi. Il dit, mon disciple, vous allez me suivre et vous allez vous aussi prendre votre croix. Et puis nous, chrétiens, des fois on est un peu comme ça. Hein. On aspire à la gloire, à la reconnaissance, à l'absence de souffrance. Tout ça, ça nous fait vraiment très très envie. Et c'est vrai que ça se trouve dans la Bible, hein. Dieu nous promet tout ça. Mais il nous a avertis qu'il y aurait aussi des souffrances, qu'il y aurait aussi un chemin de croix. Et la semaine dernière, Andrea nous a parlé de tous ces textes qui nous annoncent toutes des guerres, des souffrances, des choses qui arrivent avant le retour du Christ. Tout ça, ce n'est pas là pour nous rendre fatalistes et inactifs, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est pour nous avertir qu'on ne soit pas ébranlés dans notre foi. Qu'on sache que Dieu n'est pas dépassé par tout ça. Et puis après la croix, il y a la résurrection. Et les disciples, ils sont tellement dans le refus. Non, on ne veut pas la croix, on ne veut pas cette souffrance, on ne veut pas tout ça. Qu'ils n'entendent même pas la résurrection. Ou en tout cas, ils n'impriment pas. Ça, rien à faire. Et à ce moment-là, Jésus fait une déclaration et on va la lire dans Matthieu 16, verset 28. Il dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ce n'est pas tout à fait pareil, mais presque. Hein. Ils ne mourront pas qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et cette annonce extraordinaire, ben les disciples, ils ne l'ont pas oubliée. Et si on vous fait une promesse comme ça, je pense que vous ne l'oublieriez pas non plus. Incroyable, hein? Voir le royaume de Dieu qui vient avec puissance. Marc en parle comme ça. Voilà ce qu'on leur annonce. Hein? Avant de mourir, vous allez voir ça. Waouh! Et une semaine après, c'est par hasard, je pense que les disciples font vraiment le lien. Qu'est-ce qui se passe? La transfiguration. Donc les disciples, clairement, la transfiguration, c'est ça qui est en train de se passer. C'est Jésus qui montre sa puissance, montre son règne, montre une partie de lui qui vient en puissance. Alors, je vous invite à le lire, c'est dans Matthieu 17, c'est directement après. Si on peut l'avoir à l'écran, ce serait bien. Comme ça, je vous le lis dans la bonne version. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils se levèrent, ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Donc là, vous avez vu, le texte commence hein, 6 jours après. Tac, on fait vraiment le lien. Et chacun des synoptiques fait ça. Il dit soit 6 jours, soit une semaine. Jésus emmène 3 de ses disciples sur la montagne. Et quand il prie, et ben son visage change d'aspect. Et il brille comme le soleil. Jean parle aussi de Jésus dans l'Apocalypse avec cette même vision, hein, de son visage qui brille comme le soleil. Et Daniel, dans l'Ancien Testament, quand il parle de l'Ancien des Jours, il a aussi cette blancheur des habits, ces vêtements qui marquent cette proximité avec Dieu. Et les disciples, quand ils ont vécu ça, mais ils ne l'ont jamais oublié, hein, ça les a vraiment marqués. Et ils l'ont écrit. Jean, il l'écrira dans l'Évangile de Jean 14, nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et Pierre, il a écrit aussi dans 2 Pierre 1, je crois qu'il va aussi se projeter. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Donc ça, c'est ce qu'ils racontent, hein, ce qu'ils disent de cet épisode. Par ailleurs, Moïse est aussi connu comme quelqu'un qui avait le visage qui resplendissait. Quand il est redescendu de la montagne où il avait reçu les paroles de la loi et qu'il avait parlé avec Dieu, il avait son visage qui resplendissait comme ça. Et chaque fois qu'il entrait dans le tabernacle, et qui parlaient avec Dieu, ils resplendissaient. Et pour le peuple, quand ils voyaient ça, ils savaient qu'ils transmettaient, ils étaient vraiment porte-parole de Dieu. On dit de Moïse qu'il parlait face à face avec Dieu comme avec un ami. C'est ça hein, qui se reflétait dans son visage. Alors pour les disciples qui sont juifs, qui voient Moïse, qui voient Jésus, qui ont leur visage comme ça resplendissant, enfin on ne sait pas si Moïse resplendissait aussi, mais ça doit faire tilt. Hein. Ils pensent certainement au texte de Deutéronome qui parle, qui fait une promesse par rapport à Moïse. Et puis on va la lire aussi. On dirait que c'est beaucoup de textes, mais je trouve qu'ils sont très parlants. Donc ça vaut la peine. C'est dans Deutéronome 18, versets 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Cette promesse hein, d'un nouveau Moïse, d'un autre porte-parole comme Moïse, qui parlait de la part de Dieu, eh ben elle est accomplie en Jésus. Jésus, c'est le nouveau Moïse. Si on regarde Moïse, il était porte-parole, hein, vraiment. Il était intime avec Dieu. Et il a été l'outil de libération de l'esclavage en Égypte. Jésus, il est aussi le porte-parole, il l'amène même dans une autre alliance. Hein. Il est intime avec Dieu et il est l'outil de la libération, cette fois-ci, du péché et de la mort. Donc le parallèle est vraiment très, très intéressant et je trouve intéressant de voir Jésus comme ce nouveau Moïse. Des fois, nous qui ne sommes pas juifs, il y a des choses qui ne font pas tilt. Mais je pense que pour les disciples, c'était clair. Le deuxième qui apparaît, c'est Élie. Alors, c'est symbolique. Nous, on peut se dire, mais pourquoi Moïse et Élie? Mon Dieu, il y en a tellement dans l'Ancien Testament. Pourquoi ceux-là et pas un autre et des autres? Moïse, il symbolise la loi. C'est lui qui a amené la loi. Et Élie, il symbolise les prophètes. Donc à eux deux, ils sont la loi et les prophètes. On peut dire l'Ancien Testament, hein, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Et ensemble, ils discutent, enfin ici c'était peut-être pas marqué de quoi ils parlent, dans d'autres textes c'est mis qu'ils parlent de ce qui va se passer à Jérusalem. C'est de ça qu'ils parlent avec Jésus. Donc c'est intéressant. Finalement, de se dire que la loi et les prophètes, symbolisés par Moïse et Élie, ne sont pas en contradiction avec ce qui va se passer là, de ce que Jésus a annoncé, en fait, qui choque tellement les disciples. La croix, ça va être l'accomplissement. Hein? Moïse et Élie sont OK. Ils disent oui, c'est ça qui doit arriver. Alors, comment est-ce que ils réagissent, les disciples? Je ne sais pas si vous avez vu la première réaction. Ils sont bien, ils trouvent ça chouette. Ils ont envie de rester. Oh, super. Même Pierre, il a toujours des super initiatives. Allez, on monte des tentes, on reste, c'est bien. Alors, ce n'est pas pour se moquer de Pierre, je pense qu'il dit ça. C'est peut-être aussi pour dire qu'il est un peu... saisi hein, par ce qu'il vit, qui fait qu'il est un peu en dehors de la réalité. Une deuxième chose qui, enfin, j'ai trouvé intéressant en lisant les commentaires, Pierre met Jésus, Élie, Moïse dans au même niveau, chacun sa tente. Et puis, la vision, tout d'un coup, elle change, hein, à ce moment-là. Ça bascule, pouf, ils disparaissent, les deux autres. Il ne reste plus que Jésus. Ah non, non, ils ne sont pas sur pied d'égalité. Moïse et Élie étaient là juste pour préparer. Hein, mais c'est Jésus qui reste. Dans la deuxième partie, finalement, la loi et les prophètes sont là pour préparer la venue du Messie. Et dans cette deuxième partie, il va y avoir cette nuée lumineuse et une voix qui se fait entendre. Hein. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ou toute mon approbation », ça dépend un peu comment c'est traduit. Je trouve que les deux sont intéressants et enrichissants. « Écoutez-le ». Alors cette fois-ci, vous avez vu, la réaction des disciples, ça change du tout au tout. Tout d'un coup, ils ne se sentent plus bien du tout, hein. Ils tombent, ils sont complètement paniqués. Et là, à nouveau, nous qui ne sommes pas juifs, on ne comprend peut-être pas très bien pourquoi. Mais la nuée, ça symbolise, enfin, dans l'Ancien Testament, quand il y a la nuée, c'est qu'il y a Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là. Et cette voix qui se fait entendre, c'est Dieu lui-même. Donc pour les disciples, Jésus qui est là avec Moïse et Élie, il est juste proche de Dieu. Ok, il est Messie, il vient de la part de Dieu, ok. Mais pour eux, ce n'est pas clair qu'il est Dieu. Donc, ils n'ont pas cette crainte. Une fois cette nuée-là, ils ont peur. Parce que voir Dieu et vivre, ce n'était pas possible. Hein. L'homme est trop imparfait pour être proche de Dieu. Déjà, la nuée, elle est lumineuse, mais elle cache quelque chose, hein, parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Esaïe, il dit aussi, suite à sa vision qu'il reçoit, il dit « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » C'est vraiment un peu cette réaction-là que les disciples ont, hein, cette crainte, parce qu'ils voient Dieu. La voix qu'ils entendent, elle fait écho à ce qui est dit au moment du baptême de Jésus. C'est presque mot pour mot le même message. Hein. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il rajoute une consigne claire, facile, écoutez-le. Quelle validation, hein, de la parole de Jésus. Imaginez l'introduction... faite par Dieu lui-même. Moi, j'ai une stagiaire, elle dit toujours aux enfants, écoutez-moi, écoutez-moi. Là, c'est écoutez-le, et c'est Dieu qui le dit. Donc, vraiment, ça met l'accent sur les paroles de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans ces dernières semaines, ou ces deux dernières semaines avant sa mort? Ça va quand même être beaucoup expliqué. La croix, hein, qu'est-ce qui se passe là? Quand la Bible parle d'écouter, elle ne parle pas de juste entendre. Hein. C'est écouter attentivement et finalement laisser agir en soi et se mettre en action. Il y a l'idée d'obéissance qui est intégrée à écouter. Ce n'est pas juste j'écoute et puis ça ressort par l'autre oreille. Hein. C'est j'écoute et cette parole, elle me change. Alors quand, à ce moment-là, Jésus s'approche de ses disciples et il les touche, et il leur dit au verset 7, « Levez-vous ou relevez-vous, soyez sans crainte. » Il leur dit ces deux choses, hein. « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Alors tout d'abord, le fait de ne pas être dans la crainte, hein, ce n'est vraiment pas le but de la transfiguration, d'effrayer les disciples. Même si il leur montre une partie de la réalité qui leur échappe, hein, la divinité de Jésus, sa gloire, sa puissance, son règne, ils en ont un peu besoin pour réussir à le suivre dans la suite. Mais ils veulent, l'idée, ce n'est pas qu'ils soient dans la crainte. Mais j'aimerais m'arrêter surtout sur ce mot « relevez-vous » ou « levez-vous ». Il m'a beaucoup touchée, ce mot. J'ai été regarder dans le grec quel était ce mot. Puis c'était egerpété, c'est du verbe egeiro qui veut dire faire lever, mais aussi il veut dire réveiller, éveiller, revenir à la vie, ressusciter. Et c'est ce mot que Jésus utilise quand il relève ses disciples. Levez-vous, c'est souvent traduit juste levez-vous, hein. Mais il y a toute cette idée, il veut dire aussi tout ça, hein. Ressusciter finalement, revenez à la vie. Et c'est le même mot que Jésus utilise deux versets après pour parler de sa propre résurrection, quand il dit le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Exactement le même mot. Alors Jésus dit à ses disciples de se relever, de s'éveiller, de finalement laisser la vie et la résurrection de Dieu agir en eux. Et parfois, moi, j'ai l'impression d'être un peu comme les disciples qui voient des choses et puis qui n'imprègnent pas. Ça reste un peu extérieur. Ils ont la peine à saisir de tout leur être. Des fois, je suis un peu pareille, à comprendre les implications vraiment, personnellement. Et des fois, j'ai besoin, moi aussi, qu'on ouvre un petit peu le voile pour voir. Voir la transfiguration et puis écouter, comme les disciples, écoutez-le. Je pense que c'est valable pour nous aussi. Bien sûr qu'on n'a plus Jésus à côté de nous comme les disciples avaient, mais on a sa parole. Hein. Ses paroles, elles sont là. On a le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs pour rappeler ses paroles. Et je crois qu'on peut toujours l'écouter. Il dit qu'il est avec nous d'ailleurs. Hein. J'aime bien ce chant qui dit « Éveille-toi mon âme ». Et c'est le même mot, vous avez remarqué ?« Éveille-toi », c'est cette même idée. Hein. Et c'est un chrétien qui se parle à lui-même, qui parle à son âme, qui dit « Mais... qui se parle à lui-même pour dire « Mais écoute, vois, réagis. Et laisse la vie, la résurrection venir en toi. Envahir ta vision, tes émotions, ton espérance et ta foi. » Alors, j'avais envie, pour terminer... Peut-être qu'on ait un petit moment de silence, puis après qu'on écoute ce chant et qu'on puisse méditer pour nous. Chacun, on peut penser au Christ transfiguré et peut-être à ce qu'on a besoin d'entendre aussi nous, d'écouter et pas seulement d'entendre.
Oui, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce message, pour cette transfiguration. Comme aussi le disaient les prophètes, qu'on t'appellera Dieu puissant, merveilleux conseiller, prince de paix. Père aimant, Père éternel, voilà. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Aide-nous vraiment à méditer sur ces noms qui te sont attribués, qui reflètent qui tu es. Et vraiment pour l'impact concret que ça a dans nos vies, que nous regardons à notre semaine, à notre agenda, à nos situations, qu'on puisse se rappeler, ok, qu'est-ce que ça veut dire, prince de paix, qu'est-ce que ça veut dire que tu es mort pour nous à la croix, qu'est-ce que ça veut dire que tu es ce Dieu puissant, qu'est-ce que ça change à ma vie. Viens nous montrer, viens nous guider dans nos défis, dans nos vies. Car tu es vraiment un Dieu qui prend soin de nous, qui veut être dans nos vies. On te remercie pour ça. Amen.